voudrais aussi parler évidemment de la question de l'éthique de la graphologie. Parce que, effectivement, on peut se poser la question, effectivement, du côté un peu plat de la graphologie, comme un test, une photographie sur le moment, qui n'a de robustesse qu'en termes de profondeur du rapport, si vous voulez, du praticien graphologue à l'égard de son patient, de son client. Parce qu'effectivement, cette profondeur peut atteindre des abysses. Mais il est aussi convenable de dire que il peut y avoir une interprétation qui peut se jouer vers la surinterprétation, si vous voulez. Donc, effectivement, rentrer dans la dimension abyssale d'un rapport graphologique n'est pas néanmoins inintéressant. Ça expose le praticien à des erreurs d'interprétation, mais si vous voulez, elles sont relativement réduites, parce qu'effectivement, la graphologie nous témoigne du fait que l'écriture est relative à la personne. Il y a autant d'écriture qu'il y a d'empreintes digitales, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est que de l'engagement du sujet lui-même dans son narcissisme que l'écriture va figurer comme le traçage, l'enregistrement comme dans un disque dur de ce narcissisme, si vous voulez. Dans la graphologie, finalement, l'écriture est un résultat projectif narcissique. Donc on voit bien, les animaux n'écrivent pas, ils ne parlent pas. Hein, vous voyez bien que c'est l'humain qui a ces capacités extraordinaires, effectivement, de pouvoir projeter un dessin, une peinture, le fait de peindre, le fait de rentrer dans des complexités telles que, par exemple, on le voit dans des peintures qui sont assez théorisées dans le courant du Bauhaus, telles que Grandinsky, si vous voulez. On voit bien que ça va très loin, hein, la peinture, dans l'abstraction, même avec Paul Klee, avec Miro,
Vous avez des
ça va
ressources.
très loin. Ça va très loin, ça va très loin. Donc, si vous voulez, eh bien, la graphologie nous témoigne de l'écriture du sujet. L'écriture, c'est pas une composition artistique de dessin. Je peux vous assurer que il y a des très bons peintres, des très bons dessinateurs, mais qui écrivent comme des torchons. Hein. Bon, voilà. Donc finalement, vous voyez que l'écriture, la façon dont on écrit, l'écriture manuscrite telle qu'elle se déploie, n'a rien à voir dans son quotidien avec le travail de la mise en scène d'une toile ou d'un dessin, ou même d'un musicien, si vous voulez. Ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Donc on dit souvent l'expression symbolique de l'espace, de pulvar, je ne sais trop quoi, si vous voulez. Vous voyez, je trouve que ça manque un peu de consistance de voir la graphologie sous cet angle-là. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si vous voulez, moi je dirais que pour revenir à une dimension objective, il y a autant d'écritures manuscrites qu'il y a d'empreintes digitales. Et donc, si vous voulez, il y a un bouillonnement social dans lequel nous sommes à des moments. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de monde à des terrasses de café, on voit qu'il y a beaucoup de monde dans certains endroits, etc. Parce que quelque part, ce que recherche l'humain, c'est le contact. Il recherche le contact. Donc effectivement, on peut considérer que l'écriture peut avoir une dimension relationnelle, de la même manière que le sujet a une position, une posture relationnelle. Le sujet ne peut pas se passer de l'autre, dans une relation de contact, j'entends bien. Et donc, si vous voulez, eh bien, l'écriture n'est pas solitaire. Je dis que l'écriture manuscrite n'est pas solitaire. L'écriture manuscrite est relationnelle. Voilà. L'écriture manuscrite est relationnelle. Elle est en articulation au grand autre comme aux petits autres. Donc la question, c'est qu'on voit bien dans les écritures, eh bien, lorsque le grand autre frappe trop fort à la porte du sujet, eh bien, ça s'en ressent sur l'écriture. Notamment lorsqu'on voit des écritures où il y a des ampes et des jambages très grands, et puis des voyelles et des lettres rondes, si vous voulez, qui sont écrasées, si vous voulez. Donc on voit bien que c'est en mouchoir, hein, comme un mouchoir que l'on froisse, il y a un noyau qui est dense, et puis autour, c'est des ailes, hein, voilà, des voiles comme ça, qui partent un peu dans différentes directions. J'ai connu une écriture comme ça, effectivement, dont j'étais assez surpris. Je pensais que c'était quelqu'un, effectivement, qui était plutôt tranquille, calme, tel qu'elle le montrait, très théâtralement, et en fait, pas du tout. C'était quelqu'un qui, effectivement, était agi par la pression. Alors, la pression de quoi? La pression de différentes choses, hein, un contexte culturel, un contexte maternel. Hein. Faut savoir que la mère, chez les hommes, exerce beaucoup de pression sur eux. Et les hommes se séparent de leur mère parce que bien précisément, ce n'est pas le père qui va être le terrain propice à cette séparation. Puisque le père, d'emblée, si vous voulez, est dans un détachement par rapport au fils et à la fille, si vous voulez. Même si une relation oedipienne, hein, bien sûr, etc. Mais le père va directement être un peu dans une séparation, même si de nos jours, effectivement, les pères sont plus peut-être en phase, dans un feeling, entre guillemets, avec leur enfance, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Hein. On sait bien que parfois, quand c'est excessif, hein, c'est le trop ou le trop en tout, n'est pas bon. Hein, voilà. Quand c'est excessif, quand cet alignement avec l'enfant est excessif, eh bien, l'enfant est angoissé. Parce qu'il ne retrouve pas dans l'autre, dans son père, une butée, un certain encadrement dans une forme de séparation qui permet à l'enfant de, si vous voulez, de se situer. C'est-à-dire que, effectivement, l'autorité adjacente, à ce moment-là, est rompue, et donc, c'est un copain. Donc voilà. Alors là, c'est compliqué. Quand c'est un copain, il n'y a que des copains. Voilà, sur Terre, il n'y a plus de père, il n'y a que des copains. Des copains-pères. C'est compliqué. Parce que si le copain devient, tout d'un coup, quelqu'un d'agressif, devient un père, je pense que l'aller-retour entre le père et le copain est troublant pour l'enfant. Hein. Ça devient perturbant et l'enfant se noie, comme l'adolescent d'ailleurs, mais surtout le préadolescent et l'enfant, bien entendu, en premier lieu. Hein. Donc vous voyez que tout ça est délicat. C'est à prendre avec des pincettes, hein, comme le dirait l'acteur Vincent Lindon. On prend une femme avec des pincettes. Eh bien oui, de la même manière qu'on l'on prend une écriture avec des pincettes, parce qu'une écriture est relationnelle, si vous voulez. Donc, elle est jouée, cette écriture, par la présence du père, la présence de la mère, la présence des grands-parents aussi. Hein, effectivement, le docteur Ruffaut en parlait, hein, la présence des grands-parents, alors, surtout lorsqu'ils disparaissent, c'est compliqué pour l'enfant. Donc, vous voyez, il y a la perte qui est liée à la relation. Hein, il n'y a pas de perte sans relation et de relation sans perte. Donc, vous voyez que, si vous voulez, on ne peut pas considérer l'écriture comme quelque chose d'individuellement à ce point à un niveau statique tel que c'est pas autrement, hein, c'est pas possible. L'écriture est relationnelle, tout comme la personne est relationnelle. L'humain est un humain relationnel, hein, bien sûr. Donc la socialisation pour les enfants à l'école et les adolescents au lycée, c'est absolument essentiel. Sauf que on n'arrête pas d'entendre, effectivement, dans les médias, qu'il y a une cassure et même une culture du couteau maintenant, où tout le monde se fait poignarder, les surveillants, les profs, etc. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que je dis, pour rejoindre mon axe, que, si vous voulez, l'école n'est plus ce qu'elle est, ce qu'elle était, je veux dire. Et je dirais même ce qu'elle est, parce qu'elle est censée avoir une éthique irréprochable. Mais effectivement, sans rentrer dans ce terrain-là, en réponse aux médias, enfin, tout ça, je voudrais revenir sur la question de l'écriture des élèves. L'enseignant ne voit que le résultat du message logique, du logos, hein, de l'élève. La question de l'interprétation, elle est différente quand même. Hein. Ça se pose plus délicatement. La question de l'interprétation que peut produire l'élève par une performance intellectuelle. C'est, vous voyez, quelque chose de secondaire, qui est relayé sur un plan secondaire. Parce que ce qui prime, ça va être le logos. Hein. On est, alors le pathos, ça peut être important dans les arts plastiques, bien sûr, mais c'est le logos, si vous voulez, qui est vraiment l'ascenseur social des études du lycée jusqu'à l'enseignement supérieur. Vous voyez, c'est le logos qui est joué. Mais on omet complètement la qualité qui n'est pas statistique, justement, qui ne peut pas enregistrer dans un bilan statistique, et c'est ça qui emmerde justement les études statistiques, c'est que l'écriture ne rentre pas dans une logique de comptabilité statistique. L'écriture manuscrite est quelque chose d'individuel, à tel point qu'on voit les paradigmes de chaque élève à travers leur écriture, comme on les voit en eux-mêmes, tels qu'ils se comportent sans leur écriture, bien sûr. Donc dans un cas comme dans l'autre. Maintenant, effectivement, si vous voulez, il est étonnant que les graphologues ne soient pas consultés à l'école et à l'université et dans les entreprises suffisamment, vous voyez. C'est-à-dire que les ressources humaines emploient la graphologie pour les attitudes à un poste, ce qui est une aberration. Puisqu'en fait, c'est une aberration, puisqu'en fait, si vous voulez, il y a différentes dimensions, différents axes dans une écriture, qui fait que de toute façon, c'est une appréciation de la personnalité, c'est surtout une infime connaissance de la personne. Mais même cette infime connaissance est très délicate. Elle est à prendre avec des pincettes, comme dirait Vincent Lindon quand il parle des femmes qu'il faut les prendre avec des pincettes. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut vraiment rester dans, je pense, une dimension active épistémologique quant à ces disciplines que sont la communication verbale, la psychanalyse et la graphologie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup.